Bienvenue à tous. J'aimerais parler sur surmonter le découragement. Dans le psaume 13, au verset 1, au chef des chantres, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « Je l'ai vaincu » et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. Nous passons tous par des moments de découragement dans la vie, qui que nous soyons, même si nous sommes chrétiens ou pas chrétiens, il y a toujours des obstacles, il y a toujours des oppositions. Là, on prend l'exemple de David qui a écrit ce psaume 13. C'est un homme, d'abord un homme de foi, un homme qui connaît Dieu, un homme qui est proche du Seigneur, qui a été un conquérant, qui a combattu de nombreux ennemis et qui a été victorieux. C'est aussi un homme de prière. C'est pourquoi la plupart des psaumes sont de David. Ce sont des prières, ce sont des louanges, ce sont des adorations. C'est un homme qui était proche du Seigneur et qui, lorsqu'il jouait de la musique, il y avait une onction particulière. La Bible dit que lorsqu'il jouait de l'harpe devant le roi Saül, le mauvais esprit qui était sur Saül s'éloignait du roi. Et puis, c'était un homme de l'esprit, puisqu'il avait été saisi par le Saint-Esprit lorsqu'il a été oint pour être roi. Et enfin, un homme selon le cœur de Dieu, donc beaucoup de qualités, beaucoup de bénédictions dans sa vie, et en même temps, il a connu des phases de profond découragement. Ce n'est pas le seul. Nous regardons dans la Bible ne cache pas les hauts et les bas des uns et des autres. Nous connaissons aussi l'histoire d'Élie, qui a connu des sommets avec Dieu et des victoires très importantes, mais suite à une parole de Jézabel, qui va connaître un profond découragement jusqu'à demander la mort. Nous connaissons aussi cette femme qui s'appelait Anne, qui était bénie parce qu'elle avait pu se marier, mais voilà qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et pour elle, c'était une source de découragement. Et chaque année, elle montait à Silo pour prier afin que Dieu lui accorde la grâce d'avoir un enfant. Mais elle n'avait toujours pas cet enfant et les années passaient. Et puis l'autre femme d'Elkana, qui s'appelait Pénina, tourmentait constamment Anne en la rabaissant, en l'humiliant. Il y avait donc une souffrance, il y avait un découragement perpétuel. Et même le sacrificateur Élie, qui voyait Anne prier, pensait qu'elle était ivre, parce qu'elle priait de manière à répandre son cœur devant Dieu, d'une manière peut-être exubérante, et ça l'avait choqué, et il pensait qu'elle était ivre, or ce n'était pas vrai. Donc elle avait tout cela comme découragement. Et on voit que cette femme n'avait personne pour elle. Mais même s'il n'y a personne pour vous, en tout cas Dieu, il ne vous abandonne pas. Si Dieu est pour nous, dit la Bible, mais qui sera contre nous? Anne, elle n'avait que Dieu. Et l'année suivante, alors qu'elle priait là dans le temple, l'année suivante, elle a pu venir avec un bébé, et ce bébé, c'était Samuel. Donc ne pensez pas, ça n'arrive qu'aux autres et ça ne m'arrivera jamais. Moi, je suis chrétien, je ne serai jamais découragé. Nous sommes aussi des êtres humains, avec nos forces et nos faiblesses. Jésus lui-même, Jésus c'est pourtant le Fils de Dieu, Jésus c'est la parole incarnée, Jésus, il a dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre ». Mais quand il était dans son humanité, à un moment donné, à Gethsémané, il s'est entouré de 3 disciples pour prier. Et il a connu une phase de profond découragement et il s'est mis à prier avec instance. Sa prière s'est transformée en grumeaux de sang, mais il avait le besoin du soutien dans la prière. Malheureusement, les 3 disciples n'ont même pas pu prier une heure avec lui, ils se sont endormis. Leurs yeux étaient appesantis. Alors, j'aimerais voir avec vous une première partie dans ce psaume, c'est les raisons du découragement, et David va les évoquer les unes après les autres, et j'en ai dénombré 5. La première, c'est au verset 2. Il a le sentiment d'être oublié de Dieu. Il a été oublié de Dieu. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Alors, je dis le sentiment parce que c'est une impression qu'il a dans son cœur, mais qui n'est pas la réalité. Nous avons parfois l'impression d'être abandonnés ou que Dieu ne s'intéresse plus à nous, mais c'est trompeur. Parce que Dieu ne nous abandonne jamais en réalité, il nous aime toujours. Mais nous, dans ce que nous vivons, peut-être si vous êtes malade et que vous priez et que d'autres sont guéris mais vous n'êtes pas guéri, peut-être vous avez le sentiment d'être oublié de Dieu. Ou si vous êtes seul, vous voyez les autres se marier et vous n'êtes toujours pas marié, vous avez le sentiment aussi que Dieu vous a oublié. Ou si vous êtes locataire et vous voulez devenir propriétaire, vous voyez les autres devenir propriétaires, vous n'arrivez toujours pas à être propriétaire, ben vous dites que Dieu vous a oublié. Mais c'est un sentiment, ce n'est pas la réalité. Parce que c'est une question de temps. Et quelquefois, nous aimerions avoir tout de suite ce que Dieu a prévu pour plus tard. Et il faut patienter parce que Dieu a aussi un plan pour nous. En réalité, Dieu n'oublie aucun de ses enfants et il nous aime tous. Il a un plan différent pour chacun. Il n'a pas le même plan pour vous que pour une autre personne, que pour moi. Mais chacun, en tout cas aux yeux de Dieu, nous avons une valeur inestimable. Ésaïe 49, verset 14. Sion disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. C'est peut-être la pensée qui est dans le cœur de quelqu'un ce matin. Le Seigneur m'a oublié, le Seigneur m'a abandonné. Dieu répond à cette question. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, même si on arrivait à cette extrémité qu'une femme oublie son propre enfant, « Moi, dit l'Éternel, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont constamment devant mes yeux. » Et donc, on voit que l'Éternel a fait un serment. Il nous aime. Si nous sommes enfants de Dieu, si nous lui appartenons, il a un plan pour nous. Nos noms sont gravés dans sa main. Et chaque jour, rappelez-vous que Dieu vous aime, qu'il a un plan pour vous, que vous avez de la valeur à ses yeux, que Jésus a même donné ce qu'il avait de plus précieux pour vous sauver, c'est-à-dire son sang précieux, et que nous avons cette valeur immense aux yeux de Dieu. Mais le diable passe son temps à nous faire douter, à nous faire croire que Dieu nous a oubliés, et tu vois tous ces problèmes qui t'arrivent, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Et tout ça, ce sont des mensonges de l'accusateur. Regardez cette autre traduction que j'ai relevée, c'est le même verset, le verset 2, qui dit « Seigneur, alors c'est David qui dit « Seigneur, jusqu'à quand persisteras-tu à m'oublier ?» C'est un petit peu dans cette version comme si David faisait des reproches à Dieu. Il lui reproche de l'oublier. Mes frères et sœurs, si nous sommes dans cette prière-là et que nous faisons des reproches à Dieu, tu persistes à m'oublier, tu continues à m'oublier, eh bien c'est certain que nous n'avons pas raison devant Dieu. Parce que nous ne pouvons jamais avoir raison devant Dieu, il a toujours raison. Donc si nous critiquons Dieu pour quelque chose, c'est que nous avons tort. Et nous devons réformer notre manière de voir et de comprendre pour l'aligner sur la volonté de Dieu. Parce que tant qu'on est dans le mode de reproche, le mode de critique envers Dieu, on ne peut pas avoir raison. C'est arrivé dans l'histoire de cet homme qui s'appelait Lazare, qui est mort. Alors qu'il était encore mourant, on a appelé Jésus, qui était un ami, pour venir le voir une dernière fois avant son départ. Mais Jésus a tardé à venir et Lazare est mort. Et les premières paroles de Marthe quand elle accueille Jésus, c'est « Pourquoi n'es-tu pas arrivé plus tôt? Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est donc une parole de reproche pour dire à Jésus « Tu es arrivé en retard. » Et Marie, qui arrive derrière, lui dit la même chose. « Tu es arrivé en retard. » Est-ce qu'on peut considérer que Jésus est arrivé en retard? Non. Il avait un autre plan. Il avait une autre mission. C'était celle de démontrer sa victoire sur la mort et il a dit une parole au tombeau, Lazare sort, et le mort est ressuscité et il est sorti vivant du tombeau. Il avait un autre plan. Simplement, nous ne l'analysons pas comme cela. Nous croyons qu'il est en retard et c'est vrai dans notre vie. Nous disons « Dieu n'a pas répondu, Dieu nous a oubliés, il n'a pas agi quand on a pensé que c'était le meilleur moment ». Ben voilà, il nous a mis de côté, il ne s'intéresse pas à nous, il ne nous aime pas, il arrive trop tard, etc. Eh bien, tous ces raisonnements, en fait, qui peuvent être juste sur le plan humain, sont faux sur le plan spirituel, parce que Dieu n'est jamais en retard, et Dieu, tout ce qu'il fait, c'est en son temps. Sauf que nous devons apprendre à nous caler sur le temps de Dieu et ne pas être à contre-temps, à notre temps à nous, mais à faire plier notre temps et le soumettre au temps de Dieu. En dire, Seigneur, que ta volonté soit faite en ton temps et patienter dans la foi jusqu'à ce que la main de Dieu arrive. Ça, c'était la première parole de David qui dit « Mais tu m'oublies, Éternel ». Deuxième parole, Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face ? C'est maintenant le silence de Dieu. J'ai regardé d'autres versions. Jusqu'à quand te détourneras-tu de moi ? Jusqu'à quand seras-tu loin de moi ? Une autre version. Une troisième version. Jusqu'à quand refuseras-tu de me voir ? Donc, il ressent ici que Dieu ne lui parle plus, que Dieu est lointain. Et c'est vrai que dans la parole de Dieu, il y a certains silences de Dieu. Je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, mais quand David, par exemple, a péché avec Bathsheba, il a eu cette désobéissance flagrante de commettre un adultère, il y a eu un enfant qui est né, eh bien, on ne voit pas Dieu parler à David pendant toute cette période. Et David continue à faire son service de roi. C'est comme si Dieu avait vu, parce que la Bible dit que ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Mais après, il n'y a plus rien. Jusqu'à la naissance de l'enfant. Et la première parole de Dieu, ça vient avec le prophète Nathan qui vient voir David pour le reprendre à propos de ce péché d'adulte. Il y a eu un silence. Et si vous calculez, ça représente une année entière. Une année entière pendant laquelle David a continué à faire ses activités, son service de roi, etc. Mais Dieu a fait silence. Et quelque part, ces silences de Dieu doivent nous interpeller pour dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On en trouve d'autres, par exemple avec Abraham. Abraham qui a cédé à un moment donné parce qu'il ne voyait pas le fruit de la promesse « tu auras un enfant ». Et puis Sarah lui a conseillé « écoute, on voit bien que Dieu n'y arrivera pas par nous, on va demander à Agar, la servante égyptienne, de faire l'enfant. » Et puis Abraham est allé vers Agar et il y a eu Ismaël qui est arrivé. Et à partir du moment où Ismaël est né, c'est au chapitre 16 de la Genèse, Abraham a exactement 86 ans, jusqu'au chapitre suivant qui est donc le 17, et dès le début du chapitre 17, déjà Abraham a 99 ans. Il y a une période de 13 ans là, après la naissance d'Ismaël, où on n'a plus aucune communication entre Dieu et Abraham. Plus rien en tout cas dans la Bible, rien. Ça fait 13 ans de silence. Ça veut dire que Dieu n'approuvait pas cette situation, que Dieu n'était pas d'accord. Et puis après, quand Dieu reparle, il annonce à nouveau la promesse et là, Isaac va naître. Dieu reprend les choses en main. Mais des fois, il y a des silences de Dieu qui veulent dire quelque chose. Qu'est-ce que Dieu était en train de dire par son silence ? Il disait, mais ce que tu fais n'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est un péché. Tu t'es détourné du commandement de Dieu. Tu n'as pas cru dans les promesses. Donc Dieu nous parle par ce silence. Et s'il cache sa face, s'il ne parle plus, c'est qu'il a des raisons de dire, attention, on est sur une mauvaise voie. Psaume 30, verset 7, regardez David qui écrit, « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » Et là, qu'est-ce qui démontre ? Ben, qu'il est arrivé à un point où il est orgueilleux. « Je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. » Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu cachas ta face, donc Dieu s'est retiré, et je fus troublé. Tu cachas ta face, pourquoi Dieu a fait silence ? Parce que l'orgueil de David montait à son esprit, et il se pensait arriver quelque part, il se sentait dans sa sécurité par sa propre force, il avait des paroles orgueilleuses, ben Dieu a fait silence. Et ces silences de Dieu, ça veut dire, attention, on a pris une mauvaise direction. Alors il nous parle par sa parole. Il nous avertit par les prophéties, il nous avertit par les messages. Mais si la personne s'entête, comme David ici, comme Abraham, comme nous aujourd'hui, eh bien Dieu fait silence. Et ce silence, c'est un appel à la repentance pour dire si Dieu ne nous parle plus, c'est qu'il y a quelque chose à changer. Ne négligeons pas les silences de Dieu, mais remettons-nous en question quand Dieu fait silence. Ça, c'est le deuxième élément de sa prière. Le troisième, c'est au verset 3. Après le silence de Dieu, c'est les soucis dans son âme. C'est une troisième raison pour laquelle David est découragé. Au verset 3, « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme ?» Les soucis, nous savons que c'est dévastateur. Un chrétien qui se fait beaucoup de soucis, en fait, il entretient des mauvaises herbes dans son cœur, comme des mauvaises herbes dans son cœur. Et Jésus nous avertit que les soucis étouffe la parole de Dieu. C'est quelque chose de puissant, les soucis. Donc, si vous entretenez des soucis dans votre cœur, en même temps que vous écoutez la parole, ces soucis vont étouffer la parole dans votre cœur de sorte qu'elle ne produira pas de fruits. Il le dit dans la parabole des terrains. Il y a une partie qui va tomber au milieu des ronces, des épines, et c'est l'image des soucis qui vont empêcher la parole de produire du fruit dans la vie de cette personne. Mais les soucis, Jésus dit aussi que ça nous rend le cœur lourd. De ceux qui s'apesantissent par les soucis de la vie, il y a beaucoup de soucis qui vont vous rendre lourd, c'est-à-dire vous n'aurez plus envie d'avancer. Jésus dit aussi que même si vous faites du souci, ça ne changera jamais votre situation. Il dit « Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter ne serait-ce qu'une coudée à la longueur de sa vie ?» Alors vous pouvez vous faire du souci, mais vous n'améliorez pas votre situation et vous allez peut-être même réduire votre espérance de vie. Et puis on a un proverbe qui dit que l'inquiétude dans le cœur de l'homme l'abat, mais une bonne parole le réjouit. Donc les soucis nous abattent aussi, nous découragent. Alors si vous ne faites rien, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, les soucis, nous en avons tous. Hein. On en a tous pour mille et une raisons, mille et un soucis. En fait, ils viennent tout le temps. Et donc, si nous ne faisons rien, ils vont se multiplier, ils vont se développer, ils vont remplir notre cœur et nous dévaster entièrement. Les soucis sont puissants, les soucis se multiplient, les soucis, c'est une mauvaise herbe qui se répand dans notre cœur et fait du mal. Pour vous montrer la puissance des soucis, je prends cette histoire vraie qui est arrivée en 1770. L'Angleterre a pris possession de l'Australie. Comme l'Australie avait vécu en dehors du reste du monde pendant toutes ces années, des milliers d'années, eh bien en fait, des végétations étaient différentes, des animaux étaient différents. Il y avait vraiment quelque chose à part en Australie par rapport au reste du monde. Et un Écossais qui était venu dans ce grand continent pour s'installer a voulu emporter avec lui une poignée de chardons qui sont le symbole de son pays et il a voulu les planter dans son carré de jardin. Eh bien, ces chardons, en quelques dizaines d'années, se sont répandus sur toute la surface de l'Australie. C'est une mauvaise herbe qui a proliféré et qui a rempli le continent. Pourtant, ce continent, il n'y avait aucun chardon à l'origine. Eh bien, une mauvaise herbe a fait le travail de multiplication et ça remplit un continent. Comprenez, quelques petits soucis, vous les plantez dans votre cœur, ils vont se répandre dans votre vie et ils vont faire des dégâts importants. Alors, nous sommes responsables des soucis que nous laissons entrer dans notre cœur. Et c'est pourquoi Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 7, quand il y a des soucis qui viennent, il dit « Déchargez-vous sur lui, sur Jésus ». De tous vos soucis, c'est énorme ce verset, de tous vos soucis. Pourquoi des fois on en garde encore quelques-uns ? Jésus, enfin, le Seigneur veut que nous nous déchargions de tous nos soucis sur lui, car lui-même prend soin de vous. Il y a une question de foi, il y a une question maintenant de confiance en Dieu. On va se décharger sur Jésus et croire qu'il va prendre soin de nous. Mais quand vous avez des soucis, ne tombez pas dans le piège d'imaginer encore le pire. Quand on discute avec certaines personnes, on est découragé en discutant avec elles. Parce que non seulement elles se font des soucis pour aujourd'hui, mais elles se font encore des soucis pour ce qui pourrait arriver encore demain. Et ainsi, elles entretiennent une culture du souci. Et on imagine le pire. Évidemment, si vous imaginez le pire, ça amplifie encore le problème. Ça ne fait qu'augmenter la difficulté. Et si vous êtes anxieux, alors vous allez perdre le sommeil, l'appétit, alors que la Bible nous dit, mais déchargez-vous de tous vos soucis. Et quelquefois, nous sommes trop chargés. Et c'est pourquoi nous sommes découragés et abattus. Ici, c'est le cas de David, rempli de soucis. Quatrième raison du découragement, il dit, jusqu'à quand aurai-je chaque jour des chagrins dans mon cœur ? Les chagrins. Les chagrins, ce sont des peines qui sont parfois difficiles à surmonter parce qu'on nous a fait de la peine, on nous a fait du mal. Peut-être vous avez été rejeté dans votre enfance, on vous a mis de côté, vous êtes différent des autres et on ne vous a pas accepté. Et donc vous avez eu de la peine, souffrance. Ou c'est votre conjoint qui vous a quitté pour une autre et vous avez de la peine. Ou vous avez été méprisé, incompris dans votre travail, vous avez de la peine. Et toutes ces blessures génèrent des souffrances intérieures. En fait, il n'y a pas de médicament pour guérir des blessures du cœur. Mais la parole de Dieu est là. pour nous encourager, pour nous fortifier. Et ces blessures-là, elles sont normales, elles font partie de la vie. On passe tous par la tristesse, c'est normal, parce que Dieu nous a créés avec cette sensibilité, un cœur. Un cœur, c'est à la fois un avantage, parce qu'on peut avoir des émotions, comme l'amour, la joie, et vivre de grandes et belles choses. Mais en même temps, un cœur, c'est source de souffrance et de faiblesse. Et on connaît aussi la tristesse, l'abandon, le rejet. Donc ce cœur qui est brisé, eh bien nous pouvons l'apporter au Seigneur pour qu'il le guérisse. Parce que nous n'avons pas le moyen de guérir notre cœur brisé. Un chrétien qui entretient les blessures du cœur, qui ne les dépose pas au Seigneur, il va devenir mélancolique. Il va se plaindre auprès de Dieu, il va se plaindre des autres, il va se plaindre auprès de Dieu, mais il a besoin de donner son cœur au Seigneur pour qu'il soit guéri. Et c'est la Bible qui le dit au psaume 147, verset 3. Il n'y a pas 36 solutions pour être guéri des blessures du cœur, c'est Dieu. Il guérit, c'est Dieu, ceux qui ont le cœur brisé. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Bon, il y a des amis qui pourront peut-être vous écouter, vous accompagner, vous assister, mais pour la guérison, c'est Dieu. Il panse vos blessures. C'est vrai que votre mari, votre épouse pourra vous écouter, peut-être vous consoler, mais pour guérir votre cœur brisé, c'est Dieu. Peut-être votre mari, meilleur ami pourra vous écouter, passer du temps avec vous, mais celui qui va guérir, c'est Dieu. Et merci Seigneur pour les proches, merci Seigneur pour les frères et sœurs, pour les conjoints. Mais à un moment donné, c'est Dieu qui va poser sa main puissante pour guérir votre cœur brisé. Faites-lui confiance. Donc David avait son cœur brisé. Et puis la cinquième raison de découragement, il y avait des ennemis qui s'élevaient constamment contre lui. Et l'opposition de l'ennemi, elle est là. Pour lui, c'était les Philistins. Alors nous, pour nous, ce sont des ennemis invisibles. Ce sont le diable et les mauvais esprits. En fait, tout ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, qui sont les Philistins, qui sont les ennemis du peuple de Dieu, nous devons l'appliquer spirituellement aujourd'hui comme des ennemis spirituels. Et donc nos ennemis constamment nous attaquent parce que le diable, il ne prend jamais de vacances. 7 jours sur 7, il est à l'ouvrage et il essaye de nous tenter, de nous décourager. Il s'oppose à nous. Il fait tout pour nous abattre. Donc la pression, elle est là. Et David ressent dans son cœur le sentiment que ses ennemis sont toujours là. Et puis quand il a remporté des victoires, il y a à nouveau des ennemis. Il remporte une nouvelle victoire, il y a à nouveau des ennemis. Et c'est un facteur un peu décourageant parce que vous voyez toujours des ennemis se dresser contre vous. Et c'est ça le combat spirituel. C'est que dès le moment que vous avez donné votre vie au Seigneur, vous entrez dans un combat spirituel. Et ce combat, il ne cessera pas jusqu'à votre mort. On est environné d'ennemis invisibles et nous devons combattre ces ennemis invisibles. Et ça va se passer dans la pensée souvent. Parce qu'il y a un grand combat dans nos pensées, et c'est pourquoi il nous faut entretenir des pensées saines et des pensées de victoire et de foi. Rejeter les pensées de doute et négatives. J'ai pensé à ce texte d'Hébreux, chapitre 12, verset 1. Souvent, nous avons des pensées de défaitisme, des pensées d'abattement, des idées noires. Eh bien, que dit Hébreux 12, 1 ? Nous aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et voyez, c'est comme ça qu'on peut courir et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Mais rejeter tout fardeau, ça veut dire non, je ne veux pas laisser ces mauvaises pensées de découragement, ces pensées de doute, ces pensées, ces idées noires envahir mon âme. Je les rejette et je n'en veux plus dans ma vie. Et à un moment donné, il faut prendre des positions pour rejeter les mauvaises pensées. Aussi, louer le Seigneur, on sait que David avait trouvé cette clé dans la louange, l'adoration. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Rendez grâce. Et puis, entretenir notre esprit par les promesses de Dieu. Donc, en fait, comme pour David, vous êtes peut-être confronté à des combats spirituels, mais ces combats ne cesseront jamais parce que même si vous remportez des victoires, eh bien, d'autres combats surgiront. Ce qu'il nous faut apprendre, c'est à tenir dans la durée. Et pour tenir dans la durée, eh bien, il faut que notre mental soit fortifié par la grâce de Dieu. Parce que les combats ne diminueront pas, mais notre mental peut se fortifier, de sorte que vous allez confronter l'opposition avec plus de facilité. Dieu dit ceci à Ézéchiel, « J'endurcirai ton front pour que tu t'opposes à leur front. » Qu'est-ce qui se passait? Ézéchiel avait un message de la part de Dieu à dire au peuple. C'était un message difficile et donc il était dans un combat spirituel. Eh bien, Dieu lui dit, « Moi, j'endurcirai ton front. Je te donnerai un mental assez fort pour que tu puisses résister à leurs accusations, à leurs attaques, aux méchantes paroles qu'ils vont te dire. En tout cas, ces paroles-là ne diminueront pas, mais toi, je t'endurcirai le front pour que tu puisses les confronter. » Eh bien, frères et sœurs, nous avons besoin aussi, nous, comme Ézéchiel, d'avoir un front fortifié, c'est-à-dire un mental renouvelé avec les promesses de Dieu pour être plus fort dans le combat. Et comme ça, on va pouvoir résister au diable et on va pouvoir résister dans les mauvais jours. Ça, c'était le dernier élément de découragement qu'on a vu. Donc, dans cette première partie, il y a pas moins que 5 raisons d'être découragé pour David. Mais, au verset 4, le psaume tourne. Le psaume tourne par la prière. Verset 4, « Regarde, réponds-moi, Éternel, mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. » Là, il commence à faire monter vers Dieu une prière, et là, c'est la clé. Pourquoi ? Parce que pour nous qui sommes chrétiens, la prière, c'est une force dans les combats. La prière va nous donner des solutions. La prière va nous permettre de relever la tête. La prière va nous ouvrir la voie du succès. Allons dans le lieu secret et cherchons la face de Dieu. Matthieu 6, 6, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre. » C'est Jésus qui parle. « Et là, ferme ta porte. » Ça veut dire, mets-toi à part des bruits de ce monde. Déconnecte-toi avec les choses de cette terre. Concentre-toi sur Dieu. « Et là, prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Il y a un lieu secret à trouver. C'est au pied du Seigneur. David a compris cela. Il dit, voilà, j'ai au moins 5 bonnes raisons de me faire des soucis, mais je viens dans le lieu secret, je viens prier mon Dieu pour qu'il ouvre des bonnes bénédictions en ma faveur. Alors quand le découragement frappe à la porte de votre cœur, eh bien venez dans la prière, venez chercher la face de Dieu, venez à ses pieds, il est le Tout-Puissant, et vous allez voir que la prière, c'est un moyen de recharger vos batteries. La plupart, on a des téléphones portables avec une batterie dedans. Et au bout d'un moment, si vous ne faites rien, la batterie se décharge. Il arrive même un moment, si vous ne faites rien, il n'y a plus du tout de téléphone. Il s'arrête complètement. Et donc, le seul moyen, c'est de recharger la batterie régulièrement pour que ce téléphone soit opérationnel. Bien, la prière, c'est un petit peu comme si vous alliez charger vos batteries spirituelles pour être renouvelé, pour être vivifié. Et si vous ne priez plus, si vous diminuez dans la prière, votre batterie, elle va diminuer. De sorte qu'arrivé à certains moments, il y a des chrétiens qui ne prient plus, ils n'ont plus de batterie. C'est-à-dire qu'ils deviennent morts spirituellement, ils deviennent secs. Il n'y a plus de vie spirituelle. Ils sont comme éteints. Mais s'ils reviennent dans la prière, même un téléphone complètement éteint, même un téléphone qui n'a plus 0% de batterie, vous le remettez, petit à petit, il va se recharger. Jusqu'à 100%. Donc, c'est possible. Et c'est vrai pour un chrétien. Quand bien même vous êtes arrivé au stade où vous ne priez plus, où vous avez abandonné le Seigneur, si vous revenez au Seigneur de tout votre cœur, si vous revenez dans la prière, il va vous remplir à nouveau et vous redonner tout ce que vous avez perdu. La prière nous rendra efficace. Malheureusement, beaucoup de chrétiens me disent « mais je n'ai pas le temps de prier » et on fait d'autres choses en priorité. Mais la prière nous donne des idées. La prière nous permet de gagner du temps. La prière nous ouvre des portes qu'on n'avait pas pensées. Or, vous pensez que vous allez gagner du temps si vous négligez la prière, mais en fait, vous vous mettez des bâtons dans les roues. Or, la prière, elle est là pour dégager le terrain, pour vous permettre d'aller directement vers les bonnes personnes, aux bons endroits, et avoir les bonnes connexions. C'est la prière. Ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu conduit. David, aussi très important dans ce psaume, après la prière, dans sa prière, il dit « Mais donne à mes yeux la clarté. J'ai besoin d'y voir clair. J'ai besoin d'y voir clair dans cette situation. » Pourquoi ? Parce que si vous voyez que les choses à point de vue humain, vous allez voir tous les découragements là devant vos yeux, mais vous n'allez pas voir le côté spirituel et la main de Dieu. Alors il dit « Éclaire mes yeux pour que je voie. » Et lorsque vous allez prier, en fait, Dieu va illuminer les yeux de votre cœur. Vous allez commencer à voir les choses d'une autre manière, à voir les choses selon le cœur de Dieu. Si vous ne développez pas cette vision qui est dans le cœur de Dieu, c'est-à-dire « illumine mes yeux, permets-moi de voir ta gloire », vous allez être vite découragé, vous allez faire demi-tour. Mais si vous entretenez cette relation avec Dieu, avec cette vision de foi, c'est ce qui vous permettra d'avancer, comme David l'a réalisé. Il a reçu la lumière d'en haut et il a compris qu'il n'était pas seul, que Dieu était avec lui dans son combat, et il a repris la route. Il y a un dernier point, c'est le verset 6. David conclut ce psaume par la reconnaissance et sa confiance en Dieu. Verset 6, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. » Voilà comment il s'exprime à Dieu. David affirme sa confiance en Dieu seul. Au moment où il prie là, il y a toujours les ennemis qui sont nombreux. Il a toujours tous les soucis qui l'accablent de toutes parts. Il n'est pas encore délivré, mais il sait que le temps viendra où Dieu agira. Et il dit, mais moi j'ai confiance en ta bonté, tu vas agir, tu vas étendre ta main, tu vas faire grâce. Et remarquez, le premier mot, c'est moi. C'est-à-dire que la foi, c'est personnel. Moi, je ne peux pas croire à votre place, de même que vous ne pouvez pas croire à ma place, ni à la place de votre conjoint. La foi, c'est maintenant individuel. Et j'allais dire, David a pris sa décision de croire pour lui-même. Eh bien, c'est à chacun de nous ce matin de dire, moi aussi, je veux avoir confiance dans la bonté de Dieu. Je veux lui faire confiance dans ma situation. Je sais qu'il a encore un plan et qu'il agira. C'est une décision que chacun doit prendre. Et cette décision, personne ne peut la prendre à votre place. Donc, David l'a saisie. Il dit, moi, j'ai confiance en ta bonté et je sais que tu vas agir. La confiance, c'est quoi? C'est que vous allez commencer à croire sans voir encore la chose se réaliser. Commence à croire. Dieu va faire quelque chose. C'est croire sans tout comprendre de ce que Dieu va faire. Vous ne savez pas ce que Dieu va faire. Vous ne connaissez pas ses moyens d'action. Vous êtes limité, mais vous croyez quand même, même si vous n'avez pas le début et la fin. Croire, c'est continuer à faire confiance à Dieu alors que même vos yeux vous disent le contraire de ce que Dieu vous dit. C'est ça, croire. C'est croire plus Dieu que ce que vos yeux vous montrent. C'est l'évangéliste Billy Graham qui donnait cette illustration pour expliquer la foi, qui est très simple. Il dit c'est comme un pilote d'avion qui doit atterrir dans le brouillard. Ce pilote, il ne voit absolument rien. Il ne sait pas s'il faut aller à gauche, s'il faut aller à droite. Il ne sait pas s'il faut aller plus haut ou plus bas. Et il doit arriver sur la piste d'atterrissage. Mais comme il y a du brouillard, il ne voit rien. Eh bien, il dit la seule référence qu'il a, c'est la tour de contrôle qui lui donne les indications. Et s'il écoute et il fait confiance à la tour de contrôle qui lui donne les bonnes indications, il va atterrir en sécurité. Mais si maintenant il se fie à ses yeux et qu'il se dit « je vais essayer par moi-même », il est là dans son brouillard, eh bien il va à l'accident. Donc à un moment donné, il faut faire confiance à quelqu'un d'autre. Ici, c'est la tour de contrôle. Et pour nous, chrétiens, eh bien c'est faire confiance à Dieu qui est la tour de contrôle spirituelle, qui nous envoie les informations et qui nous donne les moyens d'en sortir. David donc peut louer Dieu en disant « moi j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut ». Il a retrouvé la joie, il aurait pu se plaindre, il aurait pu gémir, il aurait pu critiquer Dieu parce qu'il n'agit pas, parce qu'il l'a abandonné. Et c'est vrai que parfois on est dans le mode des plaintes et des lamentations devant Dieu, mais si on en est là, on n'avancera pas. Alors que Dieu nous aide, guérisse notre cœur, illumine les yeux de notre cœur pour que nous puissions voir et ainsi avancer dans le chemin de Dieu. Ça, c'est un choix à faire. J'ai de l'allégresse dans le cœur, c'est-à-dire la joie est retrouvée. Pourquoi il est dans la joie? Bon, la situation, elle est toujours difficile, en fait. Il a toujours les ennemis qui sont là autour de lui. Mais il dit, je me réjouis en toi à cause de mon salut. Tu m'as sauvé. Et ça doit être une source de joie pour nous. Même si on est dans les difficultés, on peut toujours se réjouir de ce qu'un jour Dieu nous a tendu la main et il nous a arrachés au péché et il nous a sauvés. C'est une source de joie. Pourquoi vouloir rester triste? Nous avons des sources de joie. Psaume 9, verset 3, David dit « Je ferai de toi, de Dieu, le sujet de ma joie et de mon allégresse. Je chanterai ton nom, Dieu très haut. » Réjouissons-nous dans le Seigneur, frères et sœurs. Ne restons pas sur un échec, ne restons pas sur une souffrance ou une difficulté, peut-être un découragement dans lequel on peut passer. Mais apprenons à nous réjouir dans le Seigneur pour le salut, rien que le salut qu'il nous a donné. Vous voyez, on a déjà au moins une raison de se réjouir. C'est au moins il nous a sauvés, il nous a fait grâce et je peux me réjouir et le bénir. On va prier quelques instants. Peut-être vous êtes confronté à cette situation de découragement comme David. Les obstacles sont nombreux. Des ennemis se dressent autour de vous. Vous n'avez aucune visibilité sur les mois à venir, sur les années à venir. Vous êtes inquiet, vous êtes découragé. On a vu que David a connu au moins 5 raisons d'être découragé. Le sentiment d'être oublié. Deuxièmement, les silences de Dieu. Troisièmement, les soucis dans son âme. Quatrièmement, des chagrins de cœur. Cinquièmement, l'opposition de l'ennemi. Et on pourrait continuer la liste. Nos occasions d'être découragés sont nombreuses. Mais il a trouvé le moyen, dans la prière, de recharger ses batteries spirituelles, de retrouver la communion avec Dieu, de se réjouir de ce que Dieu est son sauveur, de ce que Dieu a toujours raison. Et frères et sœurs, il faut arriver à un stade où nous pouvons dire « Dieu, tu as toujours raison ». Si je commence à critiquer Dieu parce qu'il n'a pas agi comme il fallait, il n'a pas fait ce que je lui avais demandé, il n'a pas ouvert la porte que j'espérais, etc., bien c'est que nous n'avons pas compris parce que Dieu, lui, il a toujours raison. C'est à nous de nous aligner sur le plan de Dieu. Alors, regagnons la confiance. Comme David dit, « Moi, j'ai confiance en ta bonté. Je veux déclarer ma foi dans le Seigneur. » Merci pour ta parole. Merci Seigneur pour cet exemple de David qui ne s'est pas laissé happer par le découragement environnant, par toutes les raisons qu'il avait, peut-être de lâcher ta main, de s'enfuir loin de ta présence. Mais Seigneur, nous voulons, comme David, avoir recours à la prière. Nous voulons venir dans ce lieu secret où Jésus nous dit que le Père est là et qu'il est là, il nous fortifie, il recharge nos batteries spirituelles. Il nous donne cette force spirituelle. Il nous donne un front plus dur pour confronter les combats de l'adversité. Oui, Seigneur, je te prie pour mon frère, ma sœur qui passe par des moments de soucis, de difficultés, d'opposition, pour que tu les fortifies, que tu les gardes dans ta main puissante et que tu confirmes encore ta parole dans leur vie. Dans le nom de Jésus, nous te rendons toute la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. J'aimerais inviter le groupe de louanges à venir pour chanter un dernier cantique que nous pouvons prendre ensemble dans la foi. C'est ce chant qui nous dit « Ouvre les yeux de mon cœur ». J'ai pensé à cette parole de David qui dit « Donne la clarté à mes yeux ». Eh bien, pour nous, c'est « Ouvre les yeux de mon cœur parce que je désire te voir, je désire voir ta main et voir ta puissance ». Et quand les yeux de votre cœur s'ouvrent, à ce moment-là, vous comprenez que Dieu ne vous a pas abandonné et qu'il est là.